C'est vrai que je suis impressionné, non seulement de voir vos visages, mais d'être dans une église où j'ai mes 6 petits-enfants rassemblés, 2 de mes enfants, l'épouse de Christophe, Sarah Emmanuel, et il en manque 2. Il manque encore Arnaud, qui est le mari de Maïlis, Lily, sa fille, qui constitue notre cellule familiale, mais c'est déjà une belle chose et ça réjouit nos cœurs, à Francine et à moi, de pouvoir vivre cela en famille. J'avais préparé, tout au long de ces 15 jours, une prédication pour la présentation des enfants, ou d'un enfant. À 19h, j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Donc, j'ai décidé de vous apporter une parole qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Quand j'ai reçu le message de Mewen m'annonçant que Yann était malade, juste au-dessus de mon écran d'ordinateur, j'ai commencé par me dire, bon, je fais comment je vais m'adapter. Et puis juste au-dessus de mon ordinateur, j'ai un post-it qui est accroché depuis environ 9 mois, peut-être même un peu plus, qui tombe régulièrement et que j'avais raccroché quelques minutes avant parce que la colle du post-it ne colle plus, mais je le remets à chaque fois. Et c'est une parole d'Héraclite d'Éphèse qui dit ceci, « Rien n'est permanent, sauf le changement. » Et j'ai dit, « Bon, ben voilà, on va changer. » Et c'est une parole que j'aime beaucoup qui précise qu'effectivement, rien n'est permanent. Même ce qui, dans l'Église, nous semble être quelque chose d'acquis, de fondé, même, je dirais, notre doctrine qui est puisque je travaille avec un groupe sur la doctrine de l'Église apostolique, et je m'aperçois qu'au fil des siècles, notre compréhension de la doctrine de Dieu, notre compréhension de l'Écriture, c'est quelque chose qui évolue aussi au fil de la révélation. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne savons pas tout. Donc, il y a nécessité d'être prêt à changer. Et ma question ce matin, c'est est-ce que vous êtes venu dans la perspective de vouloir changer? Il y a quelques têtes qui hochent et qui opinent du chef. Puis donc, ils disent, bon, moi, je suis venu parce que c'est l'habitude le dimanche matin. Oh, parce que j'ai de la reconnaissance. Oh, il y a plein de raisons pour lesquelles on est venu. Mais est-ce qu'on est venu pour être confronté à la parole de Dieu et vivre un changement? Rien n'est permanent, sauf le changement. Et Dieu est venu afin que dans nos vies ce matin, il y ait des choses qui changent. Alors est-ce que je suis là et prêt à changer? Non pas parce que c'est Jean-Marc qui le dit, mais parce que c'est dans l'ordre des choses, dans notre relation à Dieu, qu'il y a une évolution et que nous changions en permanence. Moi qui ai 35 ans, je dois apprendre... Non, 35, non, je n'ai pas 35. 64. Je dois encore apprendre à changer. C'est surtout ma femme qui me le dit. Mais le Seigneur aussi. J'aimerais apporter ce matin une parole imagée qui vous laissera 3 objets, je dirais, en tête. C'est un texte que j'aime beaucoup. Dimanche dernier, je prêchais pour l'église de Paris et de Montreuil et j'ai apporté une prédication où il y avait 3 questions. Alors tout ça nous vient de notre professeur d'homilétique à Colding, Théo Lachat, qui disait « Ayez une prédication qui soit structurée. Ayez 3 points, 9 sous-points. » Je ne suis pas sûr que j'ai 9 sous-points, mais en tout cas, j'en ai 3. 3 points. Alors la semaine dernière, c'était 3 questions. Aujourd'hui, c'est 3 objets. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand on laisse un message avec 3 objets, après, 3 choses, on peut s'en rappeler. Et donc, ça permet de continuer à méditer la parole et à se laisser engager avec l'aide du Saint-Esprit dans un processus de changement. Alors le texte que j'ai choisi, c'est un texte qui est dans le 9e chapitre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 3 et 4. Vous allez voir que c'est très simple. « Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'Arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. » Voilà, déjà, vous avez les 3 objets. D'accord? Vous êtes capable de me dire qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Bon, ben c'est bon. Merci. Amen. J'aime beaucoup ce texte-là parce que il fait suite à l'ordre que Dieu a donné de construire une arche. Il disait dans Exode 25, si vous lisez Exode 25 à 34, vous avez le récit de la construction de l'arche et puis aussi ce qui s'est passé avec le don de la loi, du décalogue, des tables de la loi, et puis cet épisode avec le veau d'or qui fait que lorsque Moïse descend de la montagne, de colère, il brise les premières tables de la loi, le premier exemplaire. Et puis, une fois qu'il y a la condamnation du péché du peuple, il remonte sur la montagne, il redescend avec la version numéro 2, la V2, pour ceux qui ont l'habitude d'un ordinateur. Et dans l'Exode 25, verset 10, il donne l'ordre, il dit, Dieu dit à Moïse, « Ils feront une arche en bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'or d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. » Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. J'aime beaucoup cette description et surtout la dernière phrase. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ce qui est dans l'arche, c'est un témoignage. Mais un témoignage de quoi ? L'arche de l'Alliance... Par essence, c'est un objet mystérieux. Il n'y a que Steven Spielberg et puis, comment il s'appelle l'acteur, Harrison Ford, qui savent ce qu'il y a, qui ont vu ce qu'il y avait dans l'arche, hein, pour ceux qui connaissent le film. Mais par essence, c'est un objet mystérieux. Il était dans le Saint des Saints, à la fois dans le tabernacle et à la fois dans le temple de Jérusalem. Et n'y entrait dans cette partie-là que le grand prêtre sacrificateur, une fois par an, pour y faire l'aspersion sur le coffre de l'arche du sang pour le péché du peuple. Tout le monde savait où était l'arche. C'était un objet dont tout le monde parlait, en se disant c'est là où Dieu se pose quand il vient au milieu des hommes. L'endroit où il rencontre son peuple. Mais personne ne le voyait. On peut se dire, où est cette arche ? Qu'est-elle devenue ? Et puis, pourquoi donner un objet que personne ne voit ? Quand vous avez lu Exode 25, vous dites, en plus, hein, ça devait être un objet magnifique. Un objet entièrement recouvert d'or. Un objet dont l'or symbolise la sainteté de Dieu. L'endroit où Dieu vient rencontrer son peuple. Alors pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il donné un objet aussi merveilleux, aussi précieux, pour le cacher derrière un voile ? Et en fait, il le dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ce témoignage à l'intérieur de l'arche est l'aspect le plus important. Ce n'est pas l'objet en lui-même, aussi beau soit-il, mais c'est le témoignage de Dieu vis-à-vis de son peuple. Alors vous me direz, nous, en tant que non-juifs, nous n'avons pas ce type de témoignage. Et nous nous trompons. Nous sommes, à la fois collectivement, en tant qu'Église, et à la fois individuellement, avec nous aussi. J'y reviendrai tout à l'heure avec le fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit. À l'intérieur de nous se trouve là aussi, des choses qui sont liées au passé et qui sont laissées par notre culture, par notre conception, là aussi, de Dieu, de l'Église, de la foi. Alors, je ne dirais pas « nous autres bretons », ça exclurait les Parisiens, les Bordelais et ceux qui viennent de loin, les Suisses. Mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Alors, c'est vrai que les Bretons sont notamment marqués dans leur culture, leur conception de Dieu, leur relation à Dieu, par quelque chose qui vient du passé. Quel est le témoignage qui est en nous ? De qui est Dieu ? de ce qu'est Dieu. C'est aussi marqué par notre histoire personnelle. Quand je me suis converti à 16 ans et demi, j'étais né d'un père vietnamien que je n'avais connu que quelques mois quand j'étais bébé. Et j'ai été élevé par un homme qui est devenu mon père, qui a voulu être mon père, qui est devenu malade alcoolique, mais qui est demeuré mon père avec une telle puissance d'amour pour moi, qu'après je me suis dit, ben, c'est quoi un père ? Et quand j'ai découvert Dieu, je me suis dit, mais c'est quoi ? Comment je peux prier notre Père qui est aux cieux ? Parce que dans mon être intérieur, toute cette conception du Père était très partagée, à la fois bonne et mauvaise. Qu'est-ce qu'il y a en nous comme arche, comme témoignage ? Il y a dans cette arche d'alliance plusieurs objets. Je disais tout à l'heure qu'il y avait non seulement les tables de la loi, mais il y avait aussi les débris de la première table de la loi qui avait été mise avec. On le lit dans l'Exode, entre autres. Il y a le bâton d'Aaron, il y a un pot avec de la nourriture dedans. Moïse, lorsqu'il brise les premières tables qui lui ont été données, il est dit qu'elles avaient été écrites par le doigt de Dieu. Vous vous rappelez de ça ? Et quand il remonte pour chercher la deuxième version, très étrangement, ce qui est dit, même si certaines traductions ont du mal à le rendre, c'est qu'elles ont été écrites par Moïse pendant 40 jours et 40 nuits. Pour vous dire que pour moi qui ai appris l'alphabet hébreu, je comprends. C'est dur d'écrire l'hébreu. 40 jours et 40 nuits, moi j'aurais dû avoir au moins le double ou le triple. Je ne sais pas pourquoi la première était écrite par le doigt de Dieu, est-il dit, et pourquoi la seconde version semble avoir été écrite par Moïse. Comme si Dieu dit, moi j'ai déjà fait mon travail, à vous maintenant, à cause de votre péché, de recevoir et de transcrire et de diffuser cette parole. Dans le monde rabbinique, le fait que Moïse ait brisé les tables de la loi, il l'interprète comme le risque que considérait Moïse que les tables de la loi deviennent un second veau d'or. Les rabbins disent ceci, ils disent, voilà, il avait peur que, au regard de ce qu'il voyait, les tables de la loi deviennent là aussi des idoles. Alors il a préféré les briser. Moi, j'adhère assez à cette interprétation dans la mesure où j'ai vu comment, pour certains chrétiens, et notamment évangéliques, la Bible est presque une idole. Oh, il faut pas la... Il faut la respecter, il faut la lire, mais alors, sans tricher avec elle, il faut être dans le droit. Non, c'est un livre. La parole de Dieu, ce n'est pas le papier, le plomb, et l'encre. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous dit avec l'aide du Saint-Esprit. Alors il a brisé les tables de la loi. Et puis il a eu la deuxième version. Avec cet ordre, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Dans l'arche, il y a le témoignage de la révélation. Au-dessus de la caisse de ce coffre sont placés deux chérubins d'or dont les ailes se touchent. Il le dira dans Exode 25, verset 18, tu feras deux chérubins d'or. Moi, j'ai trouvé que c'était très... Dieu a le sens artistique très poussé. Il aurait pu mettre une boîte. Cette semaine, j'ai demandé à ma femme, tu pourrais acheter, on a refait le garage, tu pourrais m'acheter une boîte pour mettre les brosses à chaussures, le cirage, etc. Elle m'a acheté une boîte. Il n'y avait pas plus qu'une boîte, un couvercle, des côtés et un fond. Il n'y avait pas de chérubin, hein. C'était une boîte, chez Jiffy, je crois. Là, Dieu dit, tu vas fabriquer une arche, et dessus, il donne même la description de ces deux chérubins d'or qui étendent leurs ailes, qui se touchent, et le visage est tourné vers le propitiatoire, c'est-à-dire le dessus du coffre. Ce n'est pas pour rien. En fait, il s'agit de l'endroit où le prêtre viendra asperger par le sang une fois par an, le sang d'un sacrifice pour le pardon du peuple. Et les chérubins regardent cet endroit-là. Ils ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Ils regardent ce sang qui est donné et qui parle de l'étendue, de la puissance et de la qualité du salut de Dieu pour l'humanité. C'est de cela dont il s'agit. Et quand je lisais ce passage de l'Exode, je me remémorais ce passage de la lettre que Pierre adressait en disant « Les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. » Vous savez, ils ont cherché toujours encore l'étendue du salut de Dieu pour l'humanité. On relit encore les 12 petits prophètes, les grands prophètes, et on voit au travers de leurs paroles leur quête sans cesse, presque inassouvie, de trouver ce qu'est le salut de Dieu. Et vous savez ce que dit Pierre, un peu plus loin, il dit, ils ont cherché, ils ont fait des recherches, des investigations, et les anges désirent plonger leur regard dans le mystère de ce salut. Les anges désirent, mais ne le voient pas. Ils sont presque assoiffés de voir. Et je pense à ces deux anges en or qui regardent le propitiatoire et qui n'arrivent pas à comprendre quelle est l'étendue du salut de Dieu, parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils désirent plonger leur regard dans quelque chose que nous, par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons découvrir. La profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que nous avons conscience que ce qui nous est révélé par le Saint-Esprit est un mystère pour les anges ? Parce qu'ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Et ils regardent ces deux anges, ce propitiatoire, en se disant, mais quel mystère ! Il y a quelque chose là qui nous dépasse et que les hommes et les femmes peuvent comprendre, vivre. Est-ce que nous avons conscience de la richesse de ce salut qui nous est accordé ? Est-ce que nous avons, nous, conscience de ce que les anges n'ont pas ? Il y avait dans ce coffre trois objets. Le premier objet, ou les premiers objets, c'est les tables de la loi brisées par l'idolâtrie du peuple. Et puis les secondes, qui sont placés là aussi, pleine, entière. Je ne sais pas où est. J'ai toujours eu un mystère quand je me suis convaincu, je me suis dit, mais. Et après, quand on a été au collège biblique avec Michel, Catherine, Francine, on a exploré toutes ces choses de l'archéologie biblique. Et moi, je me disais, je ne suis pas Spielberg, mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir où elle est, cette arche. Où se trouve-t-elle ? Certaines recherches sont faites à l'heure actuelle, enfin depuis notamment les années 80, sous le mont du Temple. Certains disent qu'il y aurait des galeries et que l'une de ces galeries contiendrait, aurait servi à entreposer l'arche pour la protéger, etc. Alors il y en a qui passent leur vie à chercher dans les moindres anfractuosités avec des appareils qui envoient des ondes pour pouvoir trouver des espaces. Mais il y a l'interdiction aussi, parce que c'est un lieu saint de l'islam. Donc on ne sait pas. On est là aussi confronté à la même réalité des Juifs, la foi. Il ne s'agit pas de voir, mais de croire. De croire dans la puissance de Dieu et sa volonté de se révéler. Ces tables de la loi sont une première partie du témoignage que Dieu nous donne. C'est la place de sa parole. Quelle est la place de sa parole ? Est-ce qu'elle est, là aussi, constamment sous notre regard, même si nous ne le voyons pas, mais comme un témoignage de Dieu qui dit « Ma parole doit être au centre ». De ta vie. C'est l'apôtre Paul qui dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit à l'église de Corinthe. Vous êtes ce coffre. Je vous concède que le mien commence à vieillir. Mais j'espère qu'il contient véritablement en son fort intérieur cette place, ce témoignage que Dieu me donne. Ma parole se doit d'être au plus profond de toi. J'espère en l'Éternel, dit le psalmiste, Mon âme espère, psaume 130, verset 5, et je m'attends à sa parole. Je m'attends à sa parole. Est-ce que vous vous attendez à la parole de Dieu, jour après jour? Je bénis Dieu. Je bénis Dieu de ce qu'il m'est appelé à le servir. Je bénis Dieu, non pas à cause de ce que je peux faire ou vivre, mais parce que, bien malgré moi, souvent, je suis confronté à sa parole. Tous les jours, je la sonde, je la lis, je la travaille. Et je dis, mais heureusement que tu m'as mis dans cette situation-là, Seigneur. Si je n'avais pas, entre guillemets, cet engagement, ce service, quelle place laisserais-je à ta parole? Je pense que pour Michel, pour d'autres, c'est aussi le cas. Mm-hmm. La place de la parole, c'est un Dieu qui dit et se dit. Est-ce que je suis dans cette position de chercher ce que me dit Dieu? Dans les Proverbes, il est écrit 16-20, « Celui qui discerne la parole trouve le bonheur. » Waouh, 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 waouh! Qui veut trouver le bonheur? Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh là! Il y en a qui semblent motivés tout à coup. Rémi, non?
Oui.
Si, ah d'accord. Excusez-le. Mais c'est notre recherche. Nous voulons être heureux. Alors là, ce n'est pas un essai philosophique du baccalauréat, mais nous souhaitons le bonheur. Là, la parole de Dieu dit, celui qui discerne la parole. Ce n'est pas simplement celui qui la lit, mais celui qui la discerne, c'est-à-dire qui la fait sienne. Dans le groupe de doctrine, nous avons une réunion il y a quelque temps, ce n'est pas un mystère, et on travaille sur une des thématiques, c'est la parole de Dieu. Et puis, on a un ami qui fait partie de ce groupe, Draman Kinda, qui est un pasteur en Belgique, et qui a fait le travail. Et puis, on se disait, bon, est-ce qu'on est allé assez loin? Est-ce qu'on a assez développé, etc. Et on a fini par se dire ensemble, c'est bien, on a bien cerné ce qu'était notre croyance concernant la parole de Dieu. Mais il nous manque quand même au moins deux points. Et en fait, on s'est dit, il est indéniable que concernant la doctrine de la parole de Dieu, il est nécessaire de la mettre en lien avec la place du Saint-Esprit et avec l'Église. On ne peut pas se dire, moi tout seul, hein, je vais, la parole de Dieu, je crois que c'est la parole de Dieu, alors moi tout seul dans mon coin, je vais la lire, la relire, la travailler, l'étudier, savoir de quoi il est question. En parlant, je crois, avec Michel, il y a quelque temps, on parlait du courant de la fin du XIXe siècle, qui était un mouvement de critique biblique, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé dans un certain courant du protestantisme sur la parole de Dieu, mais en faisant en sorte d'avoir la liberté de dire « ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faudrait l'enlever ». Évidemment, à un moment donné, on est tout seul devant la parole, on décide qu'on est au-dessus de la parole. En fait, la doctrine de la parole de Dieu n'est pas déconnecté de la place que l'on doit laisser au Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. On peut avoir la plus grande intelligence, maîtriser le grec et l'hébreu, et les sciences humaines qui travaillent sur les textes, au niveau de la sémantique, etc., etc. Si je ne suis pas dans l'humilité de dire, c'est à la fois moi, avec ce que Dieu a fait de moi, mes connaissances, mes capacités presque sensorielles pour comprendre le texte, peut-être mes limites, ça doit s'engager dans la lecture de l'Écriture. Mais la deuxième chose, c'est pas tout seul, Seigneur, avec ton esprit, ni par puissance, ni par force, personnel, mais par ton esprit. Alors, là, si l'Esprit Saint, nous mettons à son écoute, le texte s'ouvre. Et là, effectivement, celui qui discerne la parole ne peut la discerner que si c'est par l'Esprit Saint qu'il se place devant l'Écriture. Sinon, on le sait au travers de l'histoire de l'Église, combien de doctrines erronées de position, d'attitude, ont provoqué les plus grandes violences. Je ne redirai jamais assez que la doctrine de la parole dans l'Église sur, je dirais, presque 20 siècles, a détruit la place de la femme dans l'Église et dans la société. Parce qu'il y a eu des interprétations qui étaient erronées. L'esclavage a été justifié par la parole de Dieu à partir du texte de Noé et de la malédiction de Cham. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous ouvrir la parole, alors nous pouvons nous engager sur des chemins tellement éloignés de la pensée, de la volonté, de l'amour de Dieu. La deuxième dimension, c'est de dire la doctrine de la parole ou la place de la parole dans ma vie est inséparable de la question de l'Église. Inséparable. Moi et l'Esprit Saint, nous avons compris que il y a tellement d'hommes et de femmes qui aujourd'hui encore, notamment avec l'aide d'Internet, d'ailleurs Internet en ce moment, on ne sait pas si c'est au-dessus du Saint-Esprit ou en dessous. Et j'ai un grand reproche à faire, et je l'adresse à Gilles, qui fait partie de ceux qui ont lancé cette démarche de travail au niveau de l'Église, de revitalisation, comme on dit, de l'Église apostolique. Vous n'avez pas intégré Internet dans les outils qui peuvent être là indispensables. C'est presque une révélation, Internet. Ah ben, bien sûr. Combien d'hommes et de femmes lisent certes l'Écriture, mais la lisent au travers d'Internet, pas au travers de l'Esprit Saint. Ouais. C'est là qu'est indispensable de concevoir que la compréhension de la parole de Dieu, c'est aussi une compréhension collective, où nous nous appuyons les uns sur les autres. Et je dirais, pas simplement sur les ministères. Non, non, c'est pas sur Michel, Jean-Marc, ou un tel, qui a sa place, soit Jean-Louis dans les rendez-vous avec la Bible, ou dans l'Église, Francine. Non, 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 c'est... Nous avons tous ensemble un rôle à jouer en Église. C'est là que je vais témoigner d'une chose. Il y a 2 ans et demi à peu près, j'étais engagé dans mon travail avec des certitudes sur où allais-je aller, de quelle manière je devais, avec mon esprit et mon sens des responsabilités, continuer à travailler au fil des années, jusqu'à ce que, me semble-t-il, je puisse voir la ligne d'arrivée, l'arrêt du travail, quand j'aurais fait ceci, quand j'aurais atteint tel objectif, quand mon établissement aurait fusionné avec tel autre. Et puis, juste là, au niveau des dernières chaises de la rangée, Patricia est venue me voir, m'a pris de mes nouvelles. Et à un moment donné, elle m'a donné, en 3-4 phrases, une parole. Et cette parole-là a changé ma vie. Ça aurait dû être Michel. Un ancien dans l'Église, de quel droit une femme me donnerait une parole qui pourrait changer ma vie ? En Église. Et ce qu'elle m'a dit m'a fait réaliser quelque chose qui est le fruit, là aussi, je disais, de ce qui est de manière d'être intérieure, la manière dont je me suis construit, notamment sur le sens des responsabilités. En raison de mes responsabilités, je mourrais sous le harnais, plutôt que de lâcher. En 3 phrases, 4 phrases, Patricia a réussi à me toucher à un moment donné. L'après-midi même, devant Dieu, je prenais une décision en disant « c'est bon, je sais ce que je dois faire ». En Église, la parole de Dieu, la place de la parole de Dieu est aussi sur nos épaules parce que nous sommes prêtres et sacrificateurs, les uns et les autres. Quelle est la place de la parole? Quelle est ta responsabilité, ton service et ton ministère dans ce témoignage que Dieu te donne et qu'il te confie? Parce qu'il ne s'agit pas de laisser la parole à l'intérieur et de se dire « ben maintenant elle est bien au chaud, elle reste là ». Quel est ton rôle en tant que prêtre et sacrificateur pour que ce témoignage devienne un témoignage vivant? Le peuple juif n'avait pas d'autre raison d'être. Je relisais un passage qui disait, en fait, que le peuple juif, Dieu lui disait, tu n'es pas meilleur que les autres. Tu n'es pas un peuple que j'ai choisi parce que tu étais une race merveilleuse, un peuple extraordinaire. Non, c'est parce que je t'ai choisi et en te choisissant, je veux faire de toi mon témoin. C'est la même chose pour nous. Les tables de la loi. Ah, la cruche d'or et la manne. La cruche d'or, Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Je ne sais pas si les descendants sont allés ouvrir le pot après. Ce n'était pas pour consommer, hein. Conserve-le pour vos descendants, c'est Exode 16, 33, afin que cette manne soit un témoignage de ma fidélité. Je suis le Dieu qui nourrit ton âme, nourrit ta vie. Est-ce qu'il y a ce témoignage-là dans le temple du Saint-Esprit que nous sommes? Est-ce que dans ce lieu très saint dans lequel Dieu habite en nous, il y a ce témoignage d'un Dieu qui me nourrit, qui est fidèle? La manne, c'est, je le dis, je le répète, mais c'est un objet, assez, un produit assez mystérieux. En parlant avec Jean-Marc Taubois, je lui disais, mais je crois savoir qu'il y a dans la culture berbère quelque chose qui est de cet ordre-là. Il me dit, oui, effectivement, il y a dans les cultures berbères, à un moment donné, le vent emmène des graines qui sont des graines entourées presque d'un miella, de miel. Et les caravaniers récoltent ces graines qui sont presque entourées de miel. Ils en font des galettes et des gâteaux et ils les mangent. Et ça, c'est quelque chose de très fort parce que c'est très sucré. Alors, je dis, ah bon je dis, donc c'est vrai. Il me dit, oui, c'est une réalité physique. Ça se produit régulièrement. Mais de temps en temps. Pas tous les jours, au matin, vous ouvrez votre tente et vous voyez qu'il y a 10 gâteaux, une corbeille de brioche, etc. Non, non, c'est, la manne, c'est quelque chose de mystérieux. D'ailleurs, même au niveau sémantique, la manne, je le dis souvent, c'est un mot assez étrange parce que, en fait, quand les Juifs, obéissant à Dieu, en étant dans le désert, ouvrent leur tente et tout à coup, ils voient quelque chose d'étrange, comme un produit sur le sol, etc. Vous savez ce qu'ils ont dit? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? En hébreu, ça se dit manou. Donc, ils ont été nourris par du qu'est-ce que c'est pendant 40 ans. Manou. Alors, je dis souvent, ça nous fait sourire, mais en français, quand les Allemands sont arrivés à Paris, ils ont vu sur les maisons de Paris des fenêtres sur les toits. Et ça, ça ne faisait pas du tout partie de la culture germanique de l'architecture. Alors, ils ont montré ça à des Français, dit « Was ist das? Was ist das ?» Et les Français disent « Oui, was ist das? Was ist das ?» Donc, on a des was ist das dans toutes les maisons maintenant. Les Juifs ont fait la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est du qu'est-ce que c'est. Et donc, ils ont eu du qu'est-ce que c'est pendant 40 ans. Mais cette présence de la manne, c'est aussi un témoignage de la fidélité d'un Dieu qui dit tous les jours, quelles que soient les circonstances de ta vie, même si du fait de ta désobéissance, parce que c'est quand même ce cas-là, 40 ans dans le désert, jusqu'à temps qu'une génération meure et que la nouvelle arrive devant la terre promise. Mais même dans ces conditions-là, je serai toujours présent dans ta vie. Je ne sommeillerai pas et je ne dormirai pas, dit Dieu. Parfois, on peut avoir le sentiment dans nos difficultés de se dire, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ne répond-il pas? Et Dieu, dans son amour, te dit encore et toujours, je suis là, même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, mais par la foi, sois assuré que je suis là. Dieu est un Dieu qui nourrit. On ne peut pas penser à cette manne et à ce pot dans l'arche de l'Alliance sans penser à ce texte de l'Évangile de Jean, chapitre 6. En vérité, Verset 26, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous savez, c'est juste après la multiplication des pains dans l'évangile de Jean. Jean met juste derrière cette intervention en disant, bah oui, j'ai multiplié. Et là, vous me cherchez, mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasié. Vous savez ce que c'est que d'être rassasié. Nous sommes dans une génération et dans un temps et un contexte où nous ne mourrons pas de faim. On avait même l'habitude, quand je travaillais avec la population de sans domicile fixe, de dire « il est impossible aujourd'hui de mourir de faim en France, de mourir de faim, qu'on soit mal alimenté, qu'on ait peu de moyens, etc., mais mourir de faim ». Et j'avais un SDF qui était devenu un ami, vraiment un ami, pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Et il me disait « mais tu sais Jean-Marc, moi ça fait 20 ans que je vis dans la rue. Mais quand je suis dans la rue, il me suffit d'aller derrière les restaurants, et puis j'ai mon adresse et ma cantine, et là, il y a le restaurateur, il me donne les restes de plats qui n'ont pas été mangés ou consommés, etc. Je ne peux pas mourir de faim. Après, je peux être malnutri. On connaît des familles qui ne peuvent pas avoir ce type de démarche. Est-ce qu'en tant que chrétien, nous avons conscience d'un Dieu qui nous nourrit et qui est là présent tous les jours dans notre vie ? Des chrétiens malnutris, j'en connais aussi. De ceux qui ne se nourrissent pas de la parole de Dieu. Il y a les Juifs qui disent à Jésus, « Donne-nous toujours ce pain !» Et Jésus leur répondra, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je connais des personnes, des chrétiens, qui sont mal nutri spirituellement, parce que la parole n'est pas là par l'action du Saint-Esprit présente dans leur vie. Est-ce que je suis prêt à faire cette démarche-là, cette expérience ? Depuis ma retraite, j'ai le bénéfice tous les matins de ne plus aller travailler, mais à 7h, 7h15 dans mon lit, je lis gratuitement la parole de Dieu. Pas pour une prédication, pas pour une réunion, pas pour autre, non, simplement pour la lire. Et le Saint-Esprit me fait découvrir des choses extraordinaires. Ah, c'est une grâce. Mais parfois, on peut laisser la vie au quotidien nous faire passer à côté de cette manne. Qu'est-ce que c'est ? C'est le pain de Dieu qui est descendu du ciel pour nourrir ta vie, ma vie. Est-ce que tu veux le prendre ? Il est dit que la manne, il fallait la prendre, la nourrir, la manger le jour même, parce qu'après, elle pourrissait, mais que celle du vendredi durait 2 jours. Eh ouais, c'est génial quand même. Dieu est un Dieu du quotidien. Du quotidien. Oui, mais je sais que le Seigneur m'a parlé en 1962. Ah, c'était super. C'est pas un peu passé ? Entre ma femme et moi, il y a un gros débat. Il reste du pain d'hier. Oui, mais c'est du pain d'hier, dis-je. Moi, je veux du pain d'aujourd'hui. D'abord, je dis, c'est écrit. Donne-nous de pain ce jour. C'est ma culture. Alors, elle mange le pain d'hier et moi, je mange le pain d'aujourd'hui. C'est nos cultures. Mais est-ce que Dieu est le Dieu d'aujourd'hui qui me parle aujourd'hui ? Depuis quand ne t'a-t-il pas nourri ? Depuis quand ne t'a-t-il pas parlé ? Ah. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le troisième objet de cette arche de l'Alliance, c'est la verge d'Aaron. Vous savez, ça fait référence à cet épisode où, dans le livre des Nombres, il y a une révolte. Une révolte dans le peuple qui dit, mais de quel droit, toi, Moïse, et puis ton frère, et puis ta sœur, vous dominez sur nous ? Après tout, nous qui sommes les princes des familles d'Israël, nous avons autant le droit de commander, de diriger, etc. Et puis, face à cette révolte, Dieu conseille à Moïse de récolter un bâton par tribu. À Aaron donnant son bâton pour la tribu de Lévi. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton bourgeonnera et je ferai cesser devant moi les murmures qu'on profère contre vous, les Israélites. C'est le nombre 17, verset 1 à 10. La question qui se pose, pourquoi mettre un bâton de ce type-là? Il y aurait eu tellement d'autres choses sympas à mettre dans cette arche d'alliance. Pourquoi est-ce que Dieu trouve utile que le témoignage qui se trouve dans ce coffre contienne ce bâton-là? On est bien sur quelque chose de symbolique, mais un symbole très important pour Dieu. Pendant des siècles, ils vont trimballer cette arche d'alliance avec le tabernacle, puis ensuite le poser dans le temple de Jérusalem, avec ce témoignage, la manne et table de la loi et le bâton d'Aaron. En fait, ce symbole fait face ou fait suite au récit de révolte, de refus de l'autorité, non pas d'un homme, en l'occurrence Moïse, mais de l'autorité de Dieu. Quelle est l'autorité qui domine sur toi et dans ta vie ? Ah ouais. Et là, on n'est plus du tout sur une histoire de qui est-ce qui est le chef et qui commande. On est face à la question de ce témoignage. Est-ce que je suis, moi, ton Dieu, celui qui a toute autorité dans ta vie ? Oui, Seigneur. Le dimanche, entre 10h et 12h30, si le prédicateur n'est pas trop long. Le bâton de Aaron nous parle de l'autorité que nous acceptons dans notre vie. À qui est-ce que nous confions la direction de notre existence ? Dans l'Ancien Testament, la tribu de Lévi représentait l'autorité dans le peuple, l'autorité religieuse. Aujourd'hui, on pourrait dire, l'autorité dans l'Église, elle est où ? Là aussi, elle n'est pas dans les ministères, elle est dans l'Église et dans chaque pierre qui constitue, comme dirait l'apôtre Pierre, l'Église, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que j'ai à me soumettre, moi, quelle que soit la position que j'occupe ou que l'on m'accorde, à l'autorité que vous avez au nom de Dieu pour moi. Parce que cette autorité de Dieu, ce n'est pas un pouvoir pour dominer, c'est une autorité pour bénir et faire du bien. C'est très différent. J'ai Christiane en face de moi. Alors j'ai Christiane parce qu'elle nous dit, moi je veux être en face de l'écran. J'ai besoin, pour plein de raisons, donc, et pour ses cervicales. Donc, on avait mis son étiquette sur la même chaise longtemps pendant ces derniers mois. Christiane a été une femme qui m'a repris une fois, je le dis souvent et sans gêne, qui m'a repris une fois parce que j'étais inattentif alors qu'elle était en train de me parler. Ça a changé ma vie dans ma relation aux autres. Et le lendemain, c'était un dimanche, le lendemain, ça a changé ma manière d'être au travail, alors que j'étais en face d'une patiente à 18h le soir, dans un entretien très long, et où de temps en temps, je prenais la liberté de regarder par la fenêtre et de regarder les arbres. Et de ce jour-là, je ne l'ai plus fait. Et ça a été, alors Christiane, c'est une sœur dans l'Église, qui m'a aidé à changer ma vie, ma manière d'être. Et quelques mois après, j'ai assisté à un colloque avec un psychiatre qui m'a dit, en tant que psychiatre, qu'il avait vécu la même expérience et qu'il avait été repris par un patient qui lui disait « Mais vous ne m'écoutez pas ». Je dis « Ah bon, ben, Christiane, c'est une psychiatre alors ?» Nous sommes chacun pour notre part porteurs de l'autorité de Dieu. Une autorité qui se manifeste dans l'amour, dans l'intérêt de l'autre, pour l'aider, le faire grandir, lui permettre d'avancer. C'est l'autorité de Dieu. La présence du bâton d'Aaron nous parle du pouvoir sacerdotal qui repose sur chacune de nos épaules. Mais je suis un jeune chrétien, mais je suis une femme, mais je n'ai pas fait d'études au collège biblique. Je vois quelqu'un... Mais tu es prêtre et sacrificateur. C'est la fonction à laquelle Dieu t'appelle et m'appelle et nous appelle en Église, ensemble. Si nous devons être ce bâton d'Aaron, celui qui a l'autorité de Dieu à manifester au milieu de ce monde, au milieu de l'Église, Peut-être cela signifie-t-il que pour être un témoignage pour nos proches, nous devons être la démonstration de ce que Dieu opère en nous, montrer que Dieu opère de grandes transformations, qu'il nous permet de traverser à pied sec des choses que nous n'aurions jamais imaginé traverser, et que dans les déserts de sécheresse, de crainte, par la présence de Dieu qui est en nous, par cette loi, cette parole, ce questionnement, des sources d'eau vivantes jaillissent dans nos cœurs. C'est cela, pouvoir être l'autorité de Dieu. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous pouvons être des signes de la présence de Dieu. Dans l'Évangile, il est écrit cette pensée très semblable, que vos œuvres bonnes, tout ce que Dieu nous fait faire, soit visible aux yeux de tous les hommes, et qu'ainsi il glorifie Dieu qui est dans le ciel. Et que les autres glorifient Dieu parce qu'ils voient ce que Dieu opère en nous. La parole de Dieu, la manne, le bâton d'Aaron, laissons le Saint-Esprit nous dire ce qu'il en est aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies, de la place de ces choses. Seigneur, c'est par ton esprit que nous voulons découvrir ta parole, nous laisser transformer, car il est nécessaire que nous changions, que je change. Il est nécessaire que ce changement s'opère en moi, en nous, par la puissance de ton esprit. Il est nécessaire, Seigneur, parce que ce qui est à advenir est le meilleur pour moi. Alors, Seigneur, je veux, nous voulons accepter ce changement dans nos vies. Amen.